Dans Acte 17, si vous n'avez pas une Bible avec vous et que vous aimeriez pouvoir suivre le texte, simplement levez la main. Un placeur va se faire un plaisir de vous apporter une Bible tournée dans Acte 17. Autant que possible, assurez-vous d'avoir votre Bible dimanche matin parce qu'on veut grandir ensemble dans notre connaissance de la parole. Alors, j'ai demandé à Stéphane de faire la lecture ce matin. Vous allez entendre dans ma voix que je suis en train, j'ai un petit rhume et ça va épargner ma voix quelques instants. Stéphane va nous lire Acte 17, les versets 16 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 34. On va aller ensemble dans la prière. Bien, Père éternel, merci pour ce beau passage de ta parole. Père, j'étais touché cette semaine en étudiant ce texte de voir la réaction de Paul, son cœur, sa manière de voir la société, cette société athénienne, Seigneur, sa manière de l'évaluer, sa compassion même, Seigneur. Père, viens toucher nos cœurs à travers ce passage et nous aider à réaliser ce que tu attends de nous, Seigneur, lorsque nous considérons la société où nous évoluons, les gens qui nous entourent, Seigneur. Père, je te prie de nous donner ce cœur de missionnaire qu'avait l'apôtre Paul, qui le poussait constamment à aller vers l'étranger et dans ce cas-ci vers un étranger si loin de lui, Seigneur, pour pouvoir aller lui offrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je te prie, Père, d'être avec notre Église alors qu'on veut grandir, Seigneur. Grandir dans notre amour, dans notre affection pour cette ville où tu nous as placés. Grandir pour les gens qui y habitent, Seigneur. Ouvrir nos cœurs, ouvrir nos maisons, ouvrir nos bouches, Seigneur, et tendre les bras vers eux pour pouvoir les aimer comme Paul le fait ici. Viens nous instruire, Seigneur. Viens nous parler, viens nous transformer. Et sois avec moi, Seigneur. Accorde-moi de prêcher la vérité, de le faire par la puissance de ton esprit. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Lorsque vous rentrez, on vous remet un dépliant, puis à l'intérieur, il y a un petit inséré. Ce matin, je vous fais faire un exercice, d'accord? Alors, si vous n'avez pas pris l'inséré, trouvez-vous un bout de papier, n'importe quoi, un crayon. On commence avec un devoir ce matin, avec un exercice. C'est bon? Lorsque Paul est allé à Athènes, il est arrivé... dans les récits qu'on a dans le livre des Actes, c'est probablement celui où le changement culturel est aussi est le plus fort, d'accord? Lorsqu'il est arrivé au milieu de cette ville, il est arrivé dans la ville des dieux païens, la ville où il y avait des dieux. Athènes, c'est la Grèce antique, d'accord, avec tous ses nombreux cultes, c'était une ville splendide et il a eu un choc, il y a eu un choc culturel, il a vécu un choc spirituel et donc il a observé, il a pris le temps de marcher dans la ville, il a pris le temps de saisir un peu cette ville-là. Alors, dans l'inséré, il y a une question que je vous ai mis à l'arrière et j'aimerais ça que vous preniez le temps d'y répondre parce que je pense que le message que Dieu veut nous donner à travers le passage du livre des Actes va entrer davantage si vous prenez le temps de répondre à cette question-là. Quels sont, à vos yeux, à tes yeux, à toi, quelles sont les beautés et quelles sont les absurdités de notre société? Pense au Québec, pense à Montréal, pense... Pour toi, quelles sont les beautés? Il y a des choses particulières ici qui définissent la beauté de cette culture où nous vivons, cette société où nous vivons. Puis en même temps, il y a des choses qui sont complètement folles, qui sont absurdes, qui sont choquantes. J'aimerais ça que tu mettes des mots là-dessus. Mettez des mots sur ça. Votre réponse à vous, je vous donne quelques secondes. Trouvez une réponse à ça. Tout le monde peut le faire, d'accord? Quelles sont les beautés, quelles sont les absurdités de notre société où nous évoluons? C'est bon? Laissez-moi vous dire quelque chose un peu franchement. Si vous n'avez rien à dire sur les beautés de cette société, vous ne la connaissez pas, vous ne l'aimez pas et vous n'êtes pas des missionnaires. D'accord? Si vous n'avez rien de beau à trouver ici au Québec, à part les arbres, je parle de la société, vous n'avez pas une âme de missionnaire, vous n'êtes pas en train d'entrer dans l'œuvre que le Seigneur vous appelle à faire. Il y a des choses extraordinaires dans cette culture, des choses dont on peut être extrêmement fier et on devrait l'être. D'accord? Maintenant, il y a aussi des choses folles, évidemment. Deuxième question pour vous, je vais vous donner moins de temps pour ça. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Parce que c'est à ça qu'on assiste cette semaine dans le passage qu'on regarde. On voit la réaction dans le cœur de Paul. On voit ce qu'il voit, on voit ce qu'il ressent et on voit comment il réagit face à ça. Quelle est sa réponse? Quelle est votre réaction à vous face à cette société, cette culture où vous vivez? Est-ce que c'en est une de repli? Est-ce que c'en est une de dédain? Est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous êtes absorbé tout simplement par cette culture-là? Vous êtes deux personnes, Mr. Jekyll et Mr. Hyde, Monsieur religieux et Monsieur pas religieux, je ne sais pas. Quelle est votre réaction? Comment vous réagissez à cette société-là? Prenez un instant pour y penser. Ces conversations-là vont se continuer sur l'heure du lunch, d'accord? Si vous avez dit « Ah, moi je l'aime », demandez aux gens autour de vous s'ils ont l'impression que vous l'aimez, votre culture, où vous vivez retranché dans votre forteresse à l'abri de ce méchant monde où nous vivons. D'accord? Prenez le temps de discuter de ça puis réfléchir à ça. Paul arrive dans un contexte qui est particulier. La semaine dernière, j'ai dit le chapitre 17 du livre des Actes est super intéressant parce que on voit deux approches de Paul. On voit son approche classique où il arrive dans une ville, il y a des synagogues, cherche les places où il y a des juifs, cherche les places où il y a des gens qui cherchent déjà le Dieu de la Bible. Et puis, c'est un terreau fertile, évidemment, pour semer l'Évangile. Il y a une connaissance des Écritures, il y a une certaine crainte de Dieu, un désir de connaître ce Dieu-là de l'Ancien Testament. Et donc, il va aller vers eux premièrement. Excellent, c'est parfait. C'est un petit peu aujourd'hui comme ce qu'on fait ce matin. D'accord? Ce matin, je suis un peu comme dans une synagogue, en train de m'adresser à des gens qui plus ou moins connaissent Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez Dieu, connaissez l'Évangile, vous êtes déjà des disciples de Jésus-Christ. D'autres sont en cheminement, ils sont en train de chercher. C'est un petit peu le même terrain dans lequel on est, d'accord? Si je veux faire une comparaison avec l'époque. Maintenant, lorsqu'on continue dans Actes 17, bien, on arrive à Athènes et là, on va voir Paul qui est davantage sur la place publique. Et il va aller à deux endroits. Il va aller simplement à l'agora, à la place publique, place du marché. Il va jaser avec n'importe qui. C'est ce qu'on fait lorsqu'on sort à l'extérieur. On jase avec des gens. C'est un petit peu ça qui est en train de se passer. Que ce soit directement pour approcher avec l'évangélisation ou que ce soit avec des collègues de travail, tout ça. Et il y a cette troisième approche où là, il va carrément aller discuter avec les penseurs de la place. Et c'est définitivement un élément qui est manquant au Québec, d'accord? Un endroit où les chrétiens vont interagir dans les hautes sphères de l'élite intellectuelle. Et c'est ça qui se passe ici avec Paul. Mais Paul va répondre à cette invitation-là. C'était une ville de culture, une ville de réflexion, et Paul va se rendre là, quitte à passer pour un fou, d'accord? Quitte à faire moquer de lui, c'était pas important pour lui. Mais donc, on voit différentes approches. Lorsqu'on arrive à Athènes, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on sent que ça ressemble un petit peu plus à notre culture, d'accord? On a quitté les villes en Israël, on est dans un territoire franchement païen, pas la même culture, et on voit comment est-ce que Paul s'adapte pour pouvoir rejoindre ces gens-là. Nous avons donc des choses à apprendre de lui. Cette semaine, ce que je voulais faire, c'était me concentrer un peu sur ce qui se passe à l'intérieur de Paul. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? La semaine prochaine, on va regarder davantage le message. Qu'est-ce qu'il dit, quelle approche il prend? Si je voulais résumer ce qu'on va voir ensemble ce matin, je le résumerais comme ça. Paul a été ému et bouleversé par une société tellement éloignée de son Créateur. D'accord? Paul a pris la mesure de cette méconnaissance de Dieu qu'il y avait à Athènes et il a été ému et bouleversé par cette société-là. Alors, il est allé les rejoindre, il a trouvé des points de contact avec eux, mais dans le but de les conduire au Christ. D'accord? Dans le but de les conduire à Jésus-Christ. Je résumerai ça en trois points, ce que Paul a vu dans cette société, comment son cœur a été bouleversé par ce qu'il a vu et ce qu'il a fait en réponse à cela. Il a vu la société, il n'a pas les yeux fermés, très lucide, très conscient. Son cœur a ressenti des choses, toutes sortes d'émotions à ce moment-là devant cette société. Et comment est-ce qu'il a réagi, comment il a répondu à ce qu'il avait vu et à ce qu'il avait éprouvé dans son cœur à l'égard de cette société. Alors, premièrement, ce que Paul a vu dans cette société, bien, juste quelques mots sur Athènes, d'accord? Athènes avait été jadis vraiment la ville politique en puissance. On pense à l'Empire grec, d'accord? Alors, c'était la ville où tout se décidait politiquement, tout ça. Maintenant, on est rendu dans l'Empire romain. C'est pas exactement la même chose. La ville d'Athènes n'est plus le pôle d'influence politique. C'est Rome qui l'est. D'autres grandes villes le sont aussi. Mais la ville demeure extrêmement importante parce que ça reste le berceau de la réflexion, le berceau de la pensée, le berceau de la philosophie. Et souvent, lorsqu'on dit philosophie, pour nous, ça veut dire cours de cégep plate, d'accord? C'est pas de ça que je parle. Je suis en train de parler justement de philosophie en ce sens de dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on est sur la Terre? Où est-ce qu'on s'en va? Comment est-ce qu'on construit une société? Qu'est-ce qu'on fait avec notre société? Vous écoutez des émissions à la télé le dimanche soir, entre autres? Ben, c'est ça, ils philosophent. Puis ils vont de leur philosophie par-ci, par-là, mêlée avec quelques ingrédients culturels, tout ça. Mais c'est un peu ça qui est en train de se passer là, d'accord? Alors, c'est pas quelque chose d'inutile, la philosophie. C'est ce moment où l'être humain s'arrête puis dit, pourquoi on est sur la Terre? Comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on veut construire comme société? C'est quoi les valeurs qui vont nous motiver? C'est quoi les valeurs qui vont nous définir? C'est de la philo, ça, d'accord? C'est de la philo. Pour moi, c'est aussi de la théologie. Si tu mets Dieu dans cet ingrédient-là, dans cette réflexion-là, ben là, tu es rendu dans la théologie, d'accord? Athènes demeurait un pôle de réflexion. C'était le berceau de beaucoup de pensées qui définissaient comment la société romaine se définissait, d'accord? Et Athènes demeurait un endroit culturel magnifique, extraordinaire, où il y avait des constructions, des temples qui, même si c'était des temples pour des idoles, sur le plan artistique, architectural, c'était fascinant. Personnellement, j'aurais tellement aimé juste être là avec Paul, puis marcher dans la ville, tu sais, puis on serait allé prendre un cappuccino ensemble, on aurait chialé ensemble, on aurait été frustrés ensemble, mais voir ça, vivre ça avec lui, ça aurait été absolument extraordinaire, d'accord? Alors, lorsque Paul arrive là, il arrive dans un milieu qui n'est pas ni chrétien, ni juif, mais en même temps un milieu qui, sur le plan esthétique, Paul était un homme cultivé, ne pouvait pas être insensible à cela. D'accord? Pour son époque, Paul était un homme extrêmement instruit et cultivé. Il s'est promené dans cette ville puis il a dit, wow, regardez ce que l'être humain est capable de faire de plus beau et de plus horrible. D'accord? Mais Athènes était une ville extraordinaire en beauté, sur le plan architectural, sur le plan esthétique. C'est pas ce qui a frappé le plus Paul. Paul s'est promené dans cette ville et il a été écrasé en marchant dans la ville, par la quantité de statues de divinités qu'il y avait là. Parce que c'était le berceau aussi, Athènes, de tous ces cultes des Grecs, d'accord? Et à travers les âges, simplement, ils avaient ajouté des temples et des statues. Xénophon, qui était un historien de l'époque, un petit peu plus tard que Paul, d'accord, mais il subsistait encore suffisamment à Athènes pour que cet historien et philosophe grec dise « C'est plus facile de trouver un dieu à Athènes que de trouver un homme. » D'accord? Alors, lorsqu'on voit que Paul, dans Actes 17:16, lorsqu'il est dit qu'il a été irrité à l'intérieur de lui, à la vue de cette ville pleine d'idoles, le terme grec que vous avez là pour plein représente plutôt submergé d'idoles. D'accord? C'était comme si tu marchais dans une forêt dans laquelle il y avait des arbres, et ces arbres-là n'étaient pas des arbres, c'était des statues. Et donc, ce qui a frappé Paul en marchant dans cette ville, c'est cette quantité innombrable de temples, d'idoles, de statues qui étaient construites là, à toutes sortes de dieux, toutes sortes de dieux païens. Et il a été bouleversé à la vue de toutes ces statues-là. Actes 17:16, on lit, « Comme Paul les attendait à Athènes, il attendait ses compagnons qui allaient venir le rejoindre, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Et donc, Paul a été frappé par la quantité de divinités différentes qu'il y avait là, et ça l'amenait à mesurer à quel point l'homme avait été ingénieux pour s'inventer toutes sortes de dieux, construire toutes sortes de temples et d'autels. En voyant tout cela, Paul a mesuré, a ressenti la confusion de cette population-là. Le paradoxe avec Athènes, c'est que vous êtes au milieu de la place de la réflexion. Vous êtes dans la ville des penseurs et vous êtes en même temps dans la ville où l'être humain n'a pas trouvé mieux à faire que de s'inventer des petits dieux à échelle humaine. Alors, Paul regarde tout ça, puis il mesure, il commence à ressentir la confusion qu'il y a dans cette société. Il voit tout ce qu'elle a de superbe et il voit en même temps la folie, la bêtise. Il s'agit que vous ayez lu un petit peu, vous avez vu quelques films sur les divinités grecques pour voir que c'est une espèce de comédie française, cette affaire-là de l'époque, d'accord? Où, je veux dire, ce qu'on lit dans les journaux actuellement, avec la corruption dans l'élite, tout ça, ben c'est juste que c'était des dieux, d'accord? Ça ressemblait à ça. C'est ce que Paul voyait, et il voyait leur folie, il voyait leur ignorance. Lorsque Paul se promène dans cette ville, ce qu'il voit, c'est une société qui est étrangère à son Créateur. Une société qui a complètement perdu de vue un Dieu créateur qui serait au-dessus de ces petites divinités qu'ils se sont inventées. Il voit une société qui s'est confectionnée des dieux sur mesure et à sa ressemblance. Et c'est une des observations que Paul va faire sur les sociétés païennes de son époque. Il va développer cela plus tard dans la lettre aux Romains, par exemple. Je vous lis dans Romains 1, les versets 21 à 23. Voici ce que Paul dit en parlant de ces gens qui n'adorent plus un créateur, un Dieu plus grand qu'eux, mais qui se sont confectionnés des dieux à échelle humaine. Voici ce qu'il dit. « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. » Parce que Paul prétend que dans le cœur de chaque homme, il y a ce sentiment, cette intuition qu'il y a un Dieu créateur au-dessus de nous. Et il dit bien que ça, ce soit en eux, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et si vous pensez aux divinités grecques, vous pensez à des êtres divins, corruptibles. D'accord? Les dieux grecs avaient tous les vices des hommes. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que ces gens qui réfléchissaient, qui brillaient par leur réflexion, qui pensaient au sens de l'existence humaine, se sont égarés dans leurs élucubrations, toutes leurs pensées, à un moment donné, se sont mis à déraisonner, et cela a donné pour résultat qu'ils se sont inventés des dieux à échelle humaine qui leur ressemblaient avec tous leurs vices, d'accord? Et donc, Paul voit cette société qui s'est confectionnée des dieux sur mesure à sa ressemblance, une société qui devient étrangère à son Créateur. Une société qui est incapable d'imaginer Dieu tel qu'il est. Une société qui cherche à définir Dieu à partir de ce qu'ils sont. Ils vont s'inventer des dieux à partir de ce qu'ils sont, plutôt que de regarder tout l'univers et de dire « Attends un peu, il y a quelqu'un de plus grand que nous. » Infiniment plus grand que nous. Mais ils ne sont plus capables de connecter avec cette idée-là et ils doivent se forger des dieux par eux-mêmes. Quand l'être humain conçoit des idoles, il se forge de petits dieux sur mesure. Laissez-moi l'illustrer ainsi. Je le cite souvent de ce temps-ci, je le sais. Jean Calvin dit « L'être humain, pour se connaître, doit premièrement regarder à Dieu avant de regarder à lui-même. L'être humain doit regarder vers Dieu pour saisir la grandeur de Dieu. » Comprendre que derrière cet univers, il y a un être infiniment plus grand, éventuellement le connaître à travers les saintes écritures, mais déjà dans la nature en général, Dieu se révèle aussi comme cet être infini. Et donc, ce que Jean Calvin dit, c'est que l'être humain doit premièrement regarder à ce Dieu-là pour après ça se placer en perspective de ce Dieu infini-là. D'accord? Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que plutôt que de regarder à Dieu comme cet être infini qui est derrière tout l'univers, toute l'existence de l'univers, pour après ça dire « si toi t'es le créateur, moi je suis la créature, peut-être que je te représente, peut-être que je suis à ton image », au lieu de cela, ces gens-là, et chaque fois que l'être humain conçoit des idoles, conçoit des dieux selon son imagination, l'être humain se penche et commence à concevoir, à construire son propre Dieu qui va être à son image à lui. D'accord? Donc, inévitablement, tu t'en vas au plus petit dénominateur commun. Si je veux connaître Dieu tel qu'il est, je dois concevoir un Dieu qui a conçu la perfection de l'univers. Mais si je me détache de cela et je dis non, c'est moi qui vais concevoir Dieu, je pars de mes imperfections pour concevoir un tout petit Dieu qui va me ressembler. Et donc, ce Dieu-là n'est plus à l'image du Dieu créateur, il est à mon image, à moi. Mais c'est ça qui est en train de se passer ici. Et c'est ce qui se passe à chaque fois que dans nos vies, nous décidons de définir qui est Dieu plutôt que d'aller vers lui pour savoir qui il est. Quand nous arrêtons d'écouter Dieu se révéler à nous, dans la nature, mais dans les saintes écritures aussi, puis que nous disons, non, Dieu peut pas être comme ça, moi j'accepte pas Dieu comme ça, c'est moi qui vais définir comment Dieu est. Automatiquement, il va être plus petit que toi. Parce que toi, t'es pécheur, toi, t'es limité, toi, t'es un menteur. T'es comme moi, t'es un hypocrite parfois. T'es pas un être parfait. Come on. T'es un être imparfait, t'es un être avec ses vices. Et c'est toi qui vas définir Dieu. Donc, si Dieu existe, si un Dieu créateur existe, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a conçu. Ce n'est pas à toi de le concevoir. Paul voit dans cette ville des gens qui ont inventé toutes sortes de dieux, se sont forgés de petits dieux à leur mesure et ne sont plus capables d'imaginer un Dieu infini. Ainsi, chaque fois qu'on va leur dire, qu'on va leur faire connaître ce Dieu-là à travers les Écritures, ils vont contester avec ce Dieu-là. Ils entrent en contestation avec lui parce que Dieu doit rentrer dans leur définition à eux de Dieu. Dieu doit cadrer dans ce qu'eux estiment raisonnable comme étant Dieu. Et ce que je vois en cela, c'est que l'être humain se place lui au centre de l'univers et il dit « ce que mon esprit peut saisir, c'est ce qui est acceptable. Tout ce que mon esprit ne peut pas saisir n'est pas acceptable. Si Dieu existe, je vais pouvoir le définir. » Mais tu ne comprends pas qu'on ne saisit pas encore cet univers? On prend des télescopes pour pouvoir essayer de comprendre quelle micro-particule nous sommes dans cet univers. Et cette micro-particule-là a la prétention de dire « je vais définir celui qui est derrière cet univers ». Come on! On n'a pas encore compris où est-ce qu'on est. Mais nous, on va définir qui a fait où est-ce qu'on est. C'est ce qui se passe lorsqu'on décide de s'inventer des dieux par nous-mêmes. Nous perdons cette saine humilité devant la grandeur de l'univers, devant la grandeur d'un Dieu créateur qui devrait nous conduire en disant « Dieu, révèle-toi à moi, je peux pas moi-même, j'ai de la misère à me comprendre moi-même, plein de journées dans l'année, je me comprends même pas. Alors, j'aurais pas la prétention d'essayer de te comprendre, je vais te laisser te révéler à moi. » Mais lorsque l'homme s'invente des idoles, se crée des dieux par lui-même, décide de faire rentrer Dieu dans une petite boîte, il ne peut plus voir la grandeur de Dieu, il ne voit plus qui est Dieu. Quand Paul est marché dans cette ville, il a vu toutes ces idoles, toutes ces divinités qui avaient été inventées, il a vu le faste, il a vu la beauté, il a vu toutes ces choses-là, mais il a vu toutes ces idoles et il a mesuré l'état de cette société. D'accord? Il a vu la confusion qu'il y avait dans cette société. Souvent, on le voit à travers les mœurs, on le voit à travers le style de vie que les gens vivent, on le voit à travers des choix de société, mais tout ceci est en train d'exprimer une grande confusion. Une grande confusion. Et honnêtement, ça prend pas beaucoup, beaucoup de lucidité pour réaliser que nous sommes dans une société qui est superbe et extrêmement confuse. Extrêmement confuse. Sur des questions fondamentales concernant l'être humain. Le sort de l'humanité, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il n'y a plus rien de mal, il n'y a plus rien de bien. Vive le chaos. Ah non, ça serait trop ça. Il faut au moins qu'il y ait de l'ordre autour de moi pour que j'aie mon pâté de maison puis que je puisse me payer mon voyage dans le sud. Mais c'est pas bien et mal ces choses-là, c'est juste confort pour moi. Ça, c'est comme notre société qu'on soit le bien et le mal. On définit le bien selon ce qui convient au plus grand nombre et au plus fort, au plus puissant. Pour le reste, ils s'arrangeront. C'est une société confuse. C'est ce que Paul a vu avec ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Et ça, pour moi, c'est le plus important ce matin. Parce que Paul ne s'est pas replié dans ses retranchements, derrière ses retranchements. Paul ne s'est pas replié sur sa petite communauté de foi. Paul n'est pas arrivé là, puis après une demi-heure de marche, il a dit « OK, je m'en vais à la synagogue ». Puis je m'enferme là avec le monde qui lise la Bible. Ils savent pas qui est Jésus, mais au moins ils lisent la Bible. Ils lisent la Bible. Ils ont des principes, ces gens-là. Ils essayent de construire des mariages qui ont de l'allure. Ils essayent d'être corrects dans leur manière de marcher. On va aller s'enfermer ensemble parce que la fin du monde s'en vient. Restons ensemble, nous on a la vérité. Paul est rentré dans cette ville puis a été profondément bouleversé. Il a laissé son cœur être bouleversé par la société dans laquelle il vivait. Il a été renversé. Le terme qu'on a là au verset 16, Paul, Luc nous dit, acte 17, 16, qu'il se sentait au-dedans de lui, qu'il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. C'est pas assez fort, s'irriter. C'est le terme qui est là, dans son origine, est un terme qu'on utilisait dans le domaine médical pour parler d'une crise épileptique. D'accord? Ça vous donne une mesure? C'est un terme qui n'est pas utilisé nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Il n'est pas utilisé nulle part dans la littérature grecque. C'est vraiment avec ses racines qu'on trouve le sens. Mais c'est un terme très fort. Paul a eu un choc lorsqu'il il est rentré là, d'accord? Il marchait au milieu de cette société et il a été choqué, bouleversé, renversé par cette société. Maintenant, on pourrait être tenté de croire que Paul a vécu ça une fois à Athènes, puis après ça, il s'est dit... C'est comme ça qu'ils sont. Continuez à lire Paul. Allez lire la lettre aux Romains. Lisez Romains 1, 2, 3, 4. Allez lire ça. Vous allez voir constamment ce regard-là que Paul dépose sur sa société. Son cœur qui est bouleversé demeure toujours. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. C'est quoi votre réaction devant cette société? Nous vivons une époque absolument extraordinaire où il y a des choses qui sont faites qui sont tellement belles. Si vous savez apprécier un petit peu la culture, boy, c'est vraiment trippant de vivre aujourd'hui, ici, maintenant, c'est vraiment fou. Mais en même temps, une société qui a une confusion incroyable. Et puis, on peut devenir indifférent à tout ça, on peut ne plus être choqué par ça. On vit là-dedans, puis bon, ben c'est ça, puis il n'y a rien à faire avec ça, puis il n'y a rien à faire avec eux. Paul a été bouleversé et il s'est laissé bouleverser et ça ne va pas l'amener à se replier derrière ses retranchements, s'enfermer dans son petit bunker de croyants. Ce n'est pas ça qu'il va faire. Maintenant, si on veut bien comprendre ce que Paul est en train de vivre, il nous est dit ici qu'il a été irrité. Le meilleur indice qu'on a pour comprendre le sens du mot qui est là, il faut que je fasse un petit peu de culture biblique, c'est qu'il faut aller dans la Septante, d'accord? Plusieurs d'entre vous ne savaient pas c'est quoi la Septante. La Septante, c'était une version grecque de l'Ancien Testament qui avait été produite pour les Juifs, qui avait été emportée dans toutes les déportations un peu partout et qui ne lisait peut-être plus l'hébreu. Et donc, on a produit une version grecque de l'Ancien Testament. Dans cette version grecque de l'Ancien Testament, on trouve ce mot-là utilisé. D'accord? Ce mot est utilisé lorsque Dieu, dans l'Ancien Testament, est en train de parler de la réaction de son cœur face à l'idolâtrie. C'est dans ce contexte-là qu'il est utilisé. Et donc, ce que Paul a vécu à ce moment-là, c'est la même réaction que Dieu a devant l'idolâtrie. Un choc, une colère qui vient, une réaction qui vient, qui est non seulement un bouleversement, mais un choc violent intérieur. Et j'aimerais ça vous lire dans Ésaïe, prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe 65, les versets 2 et 3. C'est l'Éternel qui parle par la bouche de son prophète. C'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète. Et voici ce qu'il dit. « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle. » Et là, il parle d'Israël, du peuple d'Israël, à une époque où Israël se livrait à des cultes païens. D'accord? Ils avaient abandonné leur Dieu pour aller vers toutes sortes de dieux faits de mains d'hommes. « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. » Ça vous rappelle Romains 1? Car selon leurs pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Et il fait allusion ici à des cultes païens. Mais il dit, ce peuple qui vient dans ma face, il y a une belle expression en anglais, in your face, d'accord? C'est en plein ça que Dieu est en train de dire. Chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train de me cracher au visage. Et donc, cette expression, ce terme-là revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament pour parler de la réaction du Dieu Saint, le Dieu Créateur dont je parlais tout à l'heure, devant tous ces cultes que les êtres humains ont lorsqu'ils s'inventent un petit Dieu sur mesure. à l'époque et dans bien des pays encore aujourd'hui, dans bien des cultures, c'est encore des petites statuettes, d'accord? Dans notre culture, les idoles prennent une autre forme. Mais c'est tout ce qui vient prendre la place de Dieu dans nos cœurs, tout ce à quoi nous offrons notre adoration plutôt qu'à Dieu. Et chaque fois que l'être humain veut concevoir Dieu comme il le désirerait lui-même, Paul a cette même réaction devant cette idolâtrie. Maintenant, qu'est-ce qui est tellement choquant pour Dieu, pour Paul? Qu'est-ce qui devrait être tellement choquant pour nous aussi dans l'idolâtrie? Lorsque l'être humain décide de concevoir Dieu lui-même comme il le veut, il méprise, il rejette son Créateur. Tout à l'heure, j'étais dans le cours sur le livre d'Ésaïe, et je disais, lorsque l'être humain décide qu'il va définir lui-même Dieu, il rejette celui qui soutient, qui supporte son existence. Si le Dieu de la Bible existe, si la Bible est vraiment une révélation de Dieu, s'il y a vraiment quelqu'un qui a designé cette patente-là où nous vivons, et s'il y a quelqu'un qui a conçu ton existence et mon existence, cet être-là soutient ton existence par sa propre volonté. C'est ce que les Écritures nous disent. Dieu soutient toute chose. Ce Créateur-là n'a qu'à souhaiter que l'univers explose en particules et ça va se produire. Il n'a qu'à désirer, avoir même la pensée de dire, Yannick va éclater et toutes ces particules, toutes ces molécules vont flotter ici dans cette salle. Ça va se produire à ce moment-là. Non, Yannick va disparaître complètement. Il n'aura jamais existé. Il disparaîtra de la mémoire de tout être. Et c'est ça qui va se produire. Et chaque fois que nous refusons d'avoir cette humilité, de commencer notre quête de Dieu en disant, « Seigneur, je suis une créature. Ce n'est pas moi le créateur. Je vis dans un univers qui me dépasse, qui est plus grand que moi. Viens te révéler à moi. Fais-toi connaître à moi. Je veux comprendre qui tu es. » Chaque fois que je refuse de commencer par là ma recherche, je suis en train de dire, « Toi le créateur, c'est moi qui vais te définir. » Mais je ne réalise pas la folie, l'absurdité de dire ça à celui qui soutient mon existence. Alors comprenez-vous à quel point ça peut être choquant, méprisant, je vais le dire comme ça, un vieux terme, blasphématoire, d'accord? De dire à celui qui soutient ton existence, mange de la colle, c'est moi qui vais t'inventer. Et je prends une feuille de papier puis je commence à écrire qui est Dieu, tel qu'il serait acceptable pour moi. Et si tu rentres dans cette boîte-là, je te vouerai un culte. Et c'est ça qui se passe lorsque nous concevons nous-mêmes nos dieux. C'est ce qui se passe aussi lorsque nous décidons de laisser la place à quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu, que la place qui revient à Dieu dans notre cœur. Le Nouveau Testament nous aide à comprendre un peu mieux l'idolâtrie parce que le Nouveau Testament nous dit que chaque fois que je vais trouver ma sécurité, ma paix, ma joie, mon espérance, que je serais censé trouver en Dieu, ailleurs qu'en lui, c'est une idole que j'ai conçue. Dieu me dit, Yannick, je t'ai fait 5 pieds 8, je sais, tu aurais voulu mesurer 3 pouces de plus. Le gars qui est là est plus grand que toi, celui-là il est plus beau que toi. C'est comme ça que je t'ai conçu. Puis là, je dis non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi, tant que je ne serai pas assez beau, assez fort, assez grand, je ne serai pas bien dans ma peau, c'est ça qui va me donner le bonheur. Dieu dit non, le bonheur est dans le fait que je t'ai créé, tu trouves ta joie en moi. Tu t'acceptes comme tu es, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi ton créateur. Non, Seigneur, je vais poursuivre, moi, l'accomplissement de moi comme je le veux. Je me lève un matin et je dis, moi, j'ai besoin de l'amour de ma vie. Ce qui va combler ma vie, c'est l'amour. Donne-moi l'amour ou je meurs. Dieu me dit, non, je t'ai donné moi. Après ça, je te donnerai peut-être l'amour, mais je t'ai donné moi. Non, donne-moi l'amour ou je meurs. Mais l'amour est ton Dieu, mon ami. Parce que tu ne veux pas être heureux avec Dieu, tu as décidé que tu allais définir toi-même ce que tu voulais. Alors, je ne sais pas quelles sont les idoles qui se sont incrustées dans votre vie, qui sont là, qui détournent vos regards de Dieu. Dieu a créé tout cet univers-là pour notre bonheur et on devrait en jouir. C'est vrai. En jouir en disant, merci Dieu. C'est toi qui l'as fait. Et quand tu décides que tu retires, mon bonheur est en toi, Seigneur. Ça sera une occasion pour moi de t'adorer davantage. Envoyez-vous, les idoles se multiplient. Et c'est ce qui vient choquer l'apôtre Paul. Paul est offensé dans son cœur, dans son âme, que tous ces gens viennent voler la gloire de Dieu en se disant, non, on n'adorera pas le Créateur, on va se faire des petits dieux sur mesure pour nous. C'est le même sentiment qui devrait nous habiter devant toute l'idolâtrie, toutes les idoles qu'il y a dans notre société, premièrement devant les idoles qui veulent s'incruster dans nos vies à nous aussi. Parce que n'allez pas croire, parce que vous êtes chrétien, que vos cœurs ont toujours une allégeance sans partage envers Dieu. Oh non! Alors on devrait avoir ce même dédain, cette même haine contre tout ce qui vient usurper, voler la gloire de Dieu. Et lorsqu'on regarde notre société, on ne doit pas s'asseoir et juste dire, ben c'est comme ça. On doit voir la confusion qui règne, voir les dieux de cette époque qui détournent les hommes de Dieu. Et on devrait vivre avec un cœur qui est profondément scandalisé par ça, offensé par ça. Maintenant, si je m'arrête là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une belle gang de pharisiens qui jugent la société dans laquelle ils vivent, puis qui disent, nous autres, on est chrétiens, nous autres, on n'est pas comme eux autres, nous autres, on sait comment marcher. Et ce que ça cultive en toi, c'est une espèce d'orgueil, de mépris pour la société où tu vis. C'est pas ce qui se passe avec Paul. C'est vraiment fascinant. Il rentre là, il vit une sainte colère. Jésus dans le temple, Paul a vécu sa colère à Athènes. Bon, il a décidé de ne pas prendre rien pour casser toutes ces statues-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que cette irritation profonde qu'il vit se transforme en compassion. Ça ne m'est pas dit dans le texte, mais son attitude me le dit. Comment est-ce qu'il va réagir? Paul ne va pas se retirer dans ses tranchées. Paul voit cette société, il est profondément irrité de voir que cette société est confuse comme ça, qu'ils ont voué leur cœur à toutes sortes de cultes, qu'ils ont abandonné le Créateur pour se tourner vers des petites inventions humaines. Mais il y a de la compassion qui surgit dans son cœur. S'il n'y en avait pas eu, il se serait retiré. Il serait allé se cacher dans sa synagogue. Il aurait fondé une église. Il serait resté avec les chrétiens. Puis il aurait dit, « Kumbaya, Seigneur, nous autres, on a la sainte révélation. Viens-t'en, Jésus, ça presse. » Parce que le monde va mal. Paul a dit, « Le monde va mal, je vais aller vers le monde. » Et donc, Paul a eu dans son cœur une compassion profonde. Une compassion profonde. Qu'il pousse ensuite à réagir, à aller vers eux. Paul a été bouleversé, choqué, irrité et rempli de compassion. Alors, je ne sais pas comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne, si tu la vis dans un vase clos, où tu dis, pauvre de petit moi, je vis dans une méchante société et je dois me replier, juste être en communion avec les chrétiens. On est ensemble puis on est là pour se tenir, pour tenir le fort jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a plus rien à faire avec ce monde-là. Ou peut-être, à l'autre extrême, tu n'es plus choqué parce que finalement, il n'y a rien de différent de toi, le monde. Le sel a complètement perdu sa saveur. Quand tu sors d'ici, you fade in, man. Tu rentres dans le tas. Il n'y a personne qui pourrait te distinguer. Ici, c'est « Ah, j'aime Jésus. » Puis l'autre bas, c'est « Ouf, hop, il est disparu dans la salle. » Un caméléon. Il est rentré dans la gang. Quelle est ta réaction face à la société dans laquelle tu vis? Parce que Paul a été poussé à réagir. Il a été poussé à l'action. Il nous est dit au verset 23 qu'il a pris le temps d'observer juste quelques commentaires brièvement, d'accord? Au verset 23, regardez bien ce qui est mentionné. Là, il est en train de discourir, il est en train de prêcher, tout ça, mais il y a juste un mot qui m'intéresse ici. « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, Paul a pris le temps de marcher dans cette ville-là et de comprendre cette ville-là, de regarder, d'observer, d'accord? » Plutôt que de se replier en disant, oui, mais si je m'approche, tu sais, je vais être souillé. Mais pensez au ministère de Jésus, tableau. Jésus, il allait avec tout le monde, les prostituées, les ivrognes, les débauchés. Sa réputation, c'est un gars qui se tient avec les tout croches. C'est ça la réputation de Jésus, c'est vrai? Paul a pris le temps d'être en contact avec sa culture, de l'observer. Cette société dans laquelle Dieu l'appelait à avoir un ministère, il a pris le temps de la connaître. Prenez le temps de le faire. Faites-le avec un regard qui est chrétien, avec un regard qui observe, qui essaie de comprendre ce qui se passe. Amen. Mais faites-le. Ne vivez pas replié en disant, dans le bon vieux temps, c'était de la bonne manière. Non, on vit maintenant, puis maintenant on a des âmes à gagner pour Christ. On a un message à livrer. Et une des choses qui me frappe à travers ça, c'est qu'il les a respectés pour les approcher avec respect. C'est fou parce que la première fois que je l'ai lu, j'ai dit t'es-tu honnête, Paul? Parce qu'au verset 16, je vois que t'es irrité. Puis lorsqu'on arrive au verset 22, regardez bien ce qu'il dit. Paul, au milieu de l'aéropage, dit homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. OK? Tu trouves religieux, mais tu trouves qu'ils sont complètement confus. Et une des choses qui me frappe là-dedans, c'est que toute l'irritation qu'il a vécue contre cette société-là, cette culture-là, ne l'a pas amené à manquer de respect envers eux. D'accord? Il est allé les voir dans ce qu'ils avaient de meilleur, et ces gens-là étaient religieux. Confus, mais religieux. Et donc, Paul a pris le temps de décanter ce qu'il était en train de voir pour pouvoir les approcher avec respect, non avec mépris. Il a pris le temps de les approcher avec respect. Et c'est un des pièges dans lesquels on peut tomber comme chrétien. On regarde la société, puis il y a une espèce de mépris, une attitude hautaine qui s'en vient. Et la seule manière de casser ça, c'est de se regarder dans le miroir puis de dire, regarde mon hypocrite, toi aussi t'es pécheur. Non, mais c'est plus que ça, c'est plus que ça. Comment est-ce que je peux respecter ces gens, cette société où je vis, pour pouvoir aller les rejoindre là où ils sont? Et c'est le dernier élément que je veux mentionner ce matin, c'est qu'il a pris le temps de les observer pour pouvoir trouver un point de contact avec eux. Il a pris le temps de chercher cet endroit de contact avec cette culture par laquelle il pouvait introduire son discours avec eux. Ce point de contact-là pour Athènes, c'était le fait qu'ils étaient tellement religieux. Ils les avaient étudiés, on va voir la semaine prochaine. Il a trouvé cette idole à un dieu, cette statue ou cet autel à un dieu inconnu. Mais il a pris le temps de les observer pour pouvoir les respecter, pour pouvoir trouver un point de contact avec eux. Et le christianisme l'a toujours fait. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on annonce Jésus-Christ. Le christianisme a toujours trouvé des points de contact avec la culture. Parce que les êtres humains qui sont à l'extérieur de l'Église, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ont été créés à l'image de Dieu. Et il y a plein de choses qu'ils font dans lesquelles ils ressemblent encore à Dieu. Et à travers ces choses-là, je suis capable de trouver des points de contact avec ma culture pour pouvoir aller leur annoncer le message. Alors ce matin, je m'adresse surtout aux chrétiens ici, parce que j'ai trouvé dans l'attitude de Paul un zèle missionnaire incroyable, vraiment beau, qui m'a vraiment touché. Et si comme assemblée, nous n'avons pas cette vision-là de la société dans laquelle nous vivons, je vous le dis, on ne sert plus à rien ici. Nous ne servons plus à rien, on attend juste d'aller rejoindre Jésus, puis ça finit là. Le hic, c'est que lui nous a envoyé en mission, les amis. On est ici en mission, on a un job à accomplir ici. Parce que d'autres ont eu le courage d'accomplir leur mission en nous annonçant l'Évangile. Et donc, on a une mission. On est ici en mission. Le reste, on va adorer le Seigneur au ciel. D'accord? Ici, on le fait, on l'adore en mission. Et on n'est pas là pour se replier dans une espèce de bunker d'église de l'espoir où « Ah, j'ai trouvé une église, c'est une vraie église, ils enseignent la vérité. Eux autres, ils disent la vérité, les églises ne sont plus comme ça. Ici, on a trouvé quelqu'un qui dit enfin les vraies affaires. » Mais les vraies affaires, les amis, c'est qu'on est en mission. On vit dans une société qui, de bien des manières, est extraordinaire et de bien des manières est choquante et bouleversante pour des gens qui connaissent la parole de Dieu. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va s'asseoir puis se dire, j'ai essayé d'entrer en contact avec ma culture, mais ils veulent pas me comprendre. Puis chaque fois que je me suis approché, ils ont été pour moi une pierre d'achoppement. Fait que je vais me replier dans mon bunker. Non, comme l'apôtre Paul, ce que je veux faire, c'est laisser ce que mes yeux voient venir bouleverser mon cœur pour que je puisse avoir la réaction de Dieu. La réaction de Dieu, ça a été quoi? Profondément choqué, scandalisé par toutes ces choses-là. Mais ça a été quoi la réaction de Dieu? Il a envoyé un sauveur. Il a envoyé un sauveur pour sauver des hommes qui étaient confus. Parce qu'ils n'allaient pas trouver le chemin par eux-mêmes. Ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ qui est venu. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est venu pour chercher des gens confus. Et si aujourd'hui vous connaissez l'Évangile, vous connaissez Jésus-Christ, c'est parce que quelqu'un vous a parlé d'un sauveur qui est la lumière du monde dans un moment où vous étiez confus. Et cette personne-là est passée par-dessus les choses dans vos vies qui vous rendaient peut-être odieux et détestables. Peut-être pas très, très agréable pour des chrétiens, tu sais, qui marchent dans la sainteté. Mais cette personne-là est venue vous présenter ce sauveur-là et la lumière est venue dans votre cœur. Cette personne-là n'était pas repliée dans son bunker. Et c'est l'appel qu'il y a sur nos vies. Apprenez à regarder la société, apprenez à découvrir ses idoles. Soyez-en bouleversés. En les découvrant, vous allez découvrir à quel point vous les avez adoptés. Vous allez pouvoir vous en repentir vous-même. Matérialisme, l'idole du sexe, de l'amour, du plaisir, du confort, de la paresse, du bonheur immédiat. Vous allez voir ça dans la société. Dieu va vous montrer à quel point vous les avez adoptés. Vous allez pouvoir vous en repentir. Arrêtez pas cela. Arrêtez pas cela. Devenez des étudiants de cette société-là. Parce que Dieu nous a placés ici à Longueuil. Et c'est notre job à nous d'aller leur exposer Jésus-Christ. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour ce beau passage. Tu m'as fait du bien, Seigneur. Tu ranimes encore une fois ce zèle missionnaire dans mon cœur, cette passion, Seigneur, pour cette ville où tu m'as placé, où tu nous as placés, Seigneur, cette culture qui a tellement, tellement, tellement besoin d'entendre l'Évangile, Seigneur. Et Père, je veux te confesser que pendant si longtemps, mon réflexe était de me replier, de me retirer, d'essayer simplement de me tenir debout. Et je veux être instruit, inspiré par Paul, Seigneur, pour laisser mon cœur se toucher, pour être un étudiant de la culture où je vis, de la société où je vis, et pour passer à l'action avec courage. Comme Paul, qui était prêt à faire un fou de lui-même parce qu'il savait que bien des gens, la majorité, ne comprendraient pas son message. Mais quelques-uns, que tu attirais à toi, répondraient à ce beau message et seraient conduits dans la lumière, conduits à Jésus-Christ. Seigneur, je te confesse que cette église, cette assemblée, Seigneur, a tendance à s'asseoir. Nous avons tendance à nous asseoir, Seigneur, sur nos dons, nos talents, notre richesse spirituelle, notre confort. Et on a adopté le rythme de vie de notre époque. Nous courons toute la semaine pour faire toutes nos activités et on essaie juste d'embarquer un élément de plus, la foi, notre croyance et ces quelques disciplines qu'elle demande. Mais nous avons perdu de vue, Seigneur, que nous sommes en mission ici. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Ouvre nos cœurs, élargis nos cœurs, ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nos cœurs soient comme le tien et que nous acceptions cette souffrance qui vient à voir le monde comme il est et à l'aimer quand même pour aller vers lui, Seigneur. Et conduis-nous par ton esprit. Que ton esprit, Seigneur, fasse de toute cette assemblée des missionnaires. Montre-nous, Seigneur, les idoles que nous avons adoptées nous-mêmes et qui nous amènent à nous endormir, à nous asseoir plutôt qu'à être dans l'action avec Paul. Et accorde-nous, Seigneur, ce grand privilège d'annoncer Jésus-Christ afin d'inviter d'autres personnes, Seigneur, à se tourner vers le merveilleux Créateur que tu es et abandonner tous les dieux qu'ils se sont inventés. C'est en Jésus-Christ que je te prie, Père. Amen. Amen.